Marcois et Robert.
Bonjour, Alexis.
Aujourd'hui, des beaux sujets avec Eric Pouliot-Tisdale. Jimmy Papati.
Il nous revient.
J'aime
bien
ça, ce gars-là, moi.
Ben oui, c'est tout le temps le fun à chaque conversation qu'on a avec lui. Puis on va parler aussi de l'artiste inou, Mathieu.
Intéressant ce qu'il fait, lui.
Oui, c'est super bon. C'était Apata Pasik de l'artiste Wallace Tokwek, qu'on appelait avant les Malicites, Mark Byrne.
Moi, je me demandais, c'est les Malicites, c'est la même chose.
Oui, Wallace Tokwek, c'est le nom de la rivière Saint-Jean dans la langue.
À Fredericton, là.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'était le peuple de cette rivière-là. Et Malicite, ça voulait dire en Mi'kmaq ceux-là qui parlent mal la langue. C'était un peu dérogatoire.
Ah bon?
Péjoratif comme nom, ouais. Donc voilà, ils ont décidé de reprendre leur identité, de reprendre leur nom original.
Il y en a aussi au Québec, non?
Oui, à Kakuna.
Ah, c'est ça, oui. Dans le bas du fleuve, j'ai vu, oui. Alexis, il semble y avoir des courts-circuits là, par les fêtes que nous, Blancs, fêtons. Là. On peut parler de Noël, l'Action de grâce, bon. Mm-hmm. Ah, Noël et d'autres, et Pâques, là. avec les Autochtones parce qu'il y a un malaise, parce que ça ne veut pas dire la même chose. Puis souvent, pour vous, c'est pas une réjouissance, c'est parfois des mauvais souvenirs.
Ouais, ben l'histoire de la tire Sainte-Catherine.
C'est quoi ça?
C'est de ça que tu nous parles aujourd'hui. J'étais pas au courant moi-même. J'ai fait de la tire Sainte-Catherine, ma jeunesse, j'en ai mangé. Et je viens juste d'apprendre cette partie-là de l'histoire. Hein. C'est fou comment soi-même, même on n'est pas au courant de notre propre histoire. Donc, faut réfléchir à tout ça, comment on peut continuer à peut-être célébrer certaines traditions. Des fois, certaines traditions...
Attends un peu, parle-moi de la tire Sainte-Catherine avant.
La tire Sainte-Catherine, oui, il paraît que c'était la première... enseignante de Montréal qui avait développé cette recette-là, et la tire aurait été utilisée notamment pour attirer des jeunes autochtones dans l'école.
Viens chercher les bonbons de ma tante.
Ben oui.
Ça se peut-tu?
Donc,
mais il est évident, Alexis, que toutes ces fêtes-là qui sont basées sur des fêtes religieuses, là, quand ouais. on parle de Noël, l'Action de grâce et tout ça, c'est quand même... de la religion. Et pour les Autochtones, la religion, c'est l'évangélisation et donc la colonisation pure laine. Là.
C'est ça. Puis la tire Sainte-Catherine, c'est la sainte de qui? C'est la sainte des vieilles filles. Fait que d'un point de vue même féministe, on pourrait avoir un point de vue critique par rapport à cette fête-là.
Oh, on pourrait dire que c'était Catherine Tekakwitha.
Catherine.
OK. OK, donc, comment on peut concilier ça, finalement?
Ben, comment on peut concilier ça? Je pense que la première étape, c'est de bien s'informer, d'être au courant de ces histoires-là. Tu sais, aujourd'hui, on voit des grosses compagnies comme Disney continuer à montrer leurs œuvres qui étaient, à bien des égards, souvent très racistes, mais qui dataient d'une autre époque. Puis qu'est-ce qu'on fait au début de ces œuvres-là, comme Dumbo l'éléphant ou les Aristochats? Ben, on met une petite notice au début disant que ça reflète les valeurs d'une certaine époque. Donc, je pense qu'en ayant au moins la réflexion pour commencer, on pourra peut-être déterminer qu'est-ce qu'on veut faire à plus long terme avec des fêtes dans ce genre-là.
Et commencer à célébrer des fêtes qui soient carrément du calendrier autochtone.
Ah ben oui, pourquoi pas.
Ça serait peut-être encore
ça,
plus
ça pourrait
direct,
être intéressant,
hein?
Oui.
C'est mieux que la petite annonce, je t'avertis.
Oui. Hey, dans les nouvelles, il y a cette semaine, notre invité de la semaine dernière, Viviane Michel, qui a reçu un doctorat honoris causa de la part de l'Université du Québec en Outaouais. Pour tous ses accomplissements, j'ai pu assister mercredi dernier à sa cérémonie de remise en ligne. Et c'était très émouvant, puis... j'ai pu prendre l'ampleur de toute la contribution qu'elle avait faite depuis plus de 25 ans qu'elle travaille dans ce domaine-là. Tout ce qu'elle a pu faire, une mère de 6 enfants, toutes des choses que je parle avec Viviane dans la vie. C'est une personne que je respecte, mais que je savais pas tout ça d'elle.
Ça reste discret, hein, mais c'est non moins important pour autant.
Ouais. Ben, en tout cas, ça fait une belle reconnaissance pour sa fin de mandat qui arrive bientôt en décembre.
Dans les nouvelles, on parle d'un coin que tu connais bien, Val-d'Or. Mm-hmm. La nouvelle classe extérieure à Val-d'Or.
Oui, ben c'est intéressant pour moi. Je pense que de pouvoir être dans la nature... Puis où ils vont faire le petit parc, où ils veulent faire leur classe à l'extérieur, c'est un beau petit parc avec un beau petit ruisseau. C'est un endroit que j'aimais bien aller bomber quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent.
Coudonc, qu'est-ce qui se passe à Odanak? C'est-tu de la chicane entre les Mohawks?
Ben, c'est pas de la chicane entre les Mohawks et les Abenakis. On parle ici d'une compagnie qui est détenue par des Mohawks, qui a un projet de mélange de pétrole, de mélange de produits pétroliers, donc de recevoir du pétrole brut, y rajouter des additifs et de pouvoir le redistribuer par la suite. Donc, le conseil de bande a décidé d'accepter les démarches du projet sans peut-être consulter adéquatement la population. Là, en ce moment, il y a une mobilisation de la population à Odanak et aussi dans plus grande ampleur. Contre ce projet-là. Puis ça tombe dans un moment où ma communauté est en élection aussi.
Ça risque pas d'opposer les deux, hein, les Abenakis et les Mohawks?
Ben, dans mesure où ça risque de poser des intérêts d'une compagnie qui est détenue par des Mohawks, je croirais pas que ça va opposer la nation Mohawk avec la nation Abénakis.
Ça reste plus personnel.
Ben, ça. Ça reste une histoire d'affaires. Là,
tant d'affaires, essentiellement. Awakak, on a naissance d'une organisation à la recherche des enfants autochtones perdus, c'est-tu...
Awashak. Le C en Atikamekw se prononce comme un CH.
Excusez-moi. On apprend tous les jours.
Donc, les enfants disparus, on a entendu, on a parlé avec Mme Panasok. Donc, c'est une association qui s'est regroupée, justement, qui regroupe les parents d'Atikamekw et au-delà même, je pense, pour supporter les familles, puis c'est d'aider ces familles-là qui ont décidé de se regrouper. Le comité Awashak était un de ces comités-là qui a poussé pour qu'on aille la nouvelle loi, puis qu'on puisse avoir une conseillère spéciale comme Mme Panasok. Il reste à voir justement qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces disparitions-là, puis si le ministre va livrer là-dessus.
J'entends parler de plus en plus dans le milieu du cinéma en particulier, de productions autochtones bien soutenues, avec des scénarios vraiment extraordinairement, qui n'ont rien de folklorique, mais tout à fait actuel.
Ouais.
T'en entends parler aussi un peu, j'imagine.
Ah, puis j'en écoute aussi ces temps-ci, à chaque mercredi, moi puis ma conjointe, on a notre petit rituel, on écoute une série américaine qui s'appelle Reservation Dog. Qui passe sur Disney+, puis c'est des producteurs autochtones, c'est des auteurs autochtones, c'est des acteurs autochtones, ça se passe en Oklahoma, puis c'est vraiment rafraîchissant. On a commencé la saison avec beaucoup d'humour, puis là on s'en vient dans des sujets plus sérieux, mais c'est sans tabou, puis c'est vraiment notre façon de raconter les histoires qu'on peut ressentir. On peut avoir du spirituel mélangé à de l'humour. Puis j'ai vraiment vu ces façons de raconter les histoires-là chez beaucoup d'Autochtones.
Rihanna, 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 Rihanna.
C'était Kurana de Rit, une artiste Inuk.
Super intéressant ces chants de gorge. Écoute, notre collaborateur Eric Pouliot-Tisdale, moi je l'imagine une espèce de navigateur dans un océan d'archives, de documents poussiéreux, d'autres qui sont cachés. Puis il réussit toujours à s'en sortir et à naviguer à bon port. Eric, vous êtes là sur votre bateau?
Ben oui, bonjour. Merci.
Bonjour.
Quoi, Eric?
Hey, comment vous faites pour Eric pour pas être perdu dans tous ces papiers-là, ces archives-là, là?
Ben, c'est d'ailleurs, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous guider vers différentes sources où est-ce qu'on peut accéder à différents documents d'archives vraiment très intéressants. Comment fouiner dans les archives de BANQ, Bibliothèque Archives Nationales du Québec, et les archives du Canada.
Oh, ça, c'est important. On prend des notes. Allez-y.
Oui. Ben, puis tout d'abord, je voulais vous mentionner que j'ai fait une conférence lundi à la Maison du Pressoir à l'île de la Visitation dans l'Antique. Et ça, c'est sur l'histoire des missions. Et puis, c'était la conférence est en ligne sur la page Facebook Éric Pouliot-Tisdale, recherchiste. Alors, vous allez pouvoir voir la vidéo là, de la conférence. Et puis, j'ai une amie chilienne qui m'a exposé qu'il y avait une pétition présentement en ligne parce que la liberté, disons, des Autochtones du Chili est plutôt rabrouée là-bas. Donc, les manifestations sont interdites pour les Autochtones de là-bas. Et plus en détail, dernièrement, c'est la journée des peuples autochtones ici. Les peuples autochtones là-bas sont vraiment réprimés par le gouvernement Pinera. Et puis, les sénateurs de l'ONU ont demandé que l'ONU supervise là, exceptionnellement qu'est-ce qui se passe comme situation là-bas. C'est le territoire des Mapuches qui sont entourés de militaires et tout ça. Alors donc, il y a une pétition en ligne. Si vous allez dans pétition, ça s'appelle change.org. C'est écrit en espagnol, c'est Libertad a todas las prisioneras y prisioneros políticos en Chile. Mais il y a un lien qui nous amène vers toute l'explication en français et comment signer la pétition. Et puis, le 17 octobre à midi, le 18 octobre, il y a une vigile devant le consulat chilien de 13h à 18h. Et la pétition et la lettre, il sera remise. Donc, c'était pour vous...
Ça fait longtemps que le peuple mapuche est opprimé par le gouvernement chilien. Hein?
Exactement, oui, c'est ça. Et puis, malheureusement aussi, le Canada, on a beaucoup d'investissements miniers dans le secteur aussi. Ça fait qu'il y a un petit conflit... avec nos relations diplomatiques, disons, là, par rapport aux libertés autochtones et tout ça, là, ça contrevient un peu aux droits de la personne.
Oui, il y a beaucoup de compagnies canadiennes qui sont les agents colonisateurs dans les pays d'Amérique du Sud qui vont extraire
Exactement.
Les ressources.
Donc, maintenant, on va sauter à notre chronique. Et puis, qu'est-ce que je trouve très intéressant, c'est que la loi sur l'accès à l'information. Vous avez la loi d'accès à l'information dans le secteur public, dans le secteur privé. Donc, par exemple, lorsqu'on arrivait au truc de généalogie, là, on en avait parlé, les recensements et les registres paroissiaux, il y a comme un décret de 100 ans avant qu'on ait accès. Donc, le dernier recensement qu'on peut regarder, c'est celui de 1921 pour le respect de la vie privée. Donc, on les a de 1825 à 1921. Les registres paroissiaux, on les a de 1640 jusqu'à 1921, étant donné qu'en réalité, c'est un décret de 100 ans, mais exceptionnellement, on les a jusqu'à 1940, juste les registres paroissiaux, parce qu'ils ont acheté la collection qui finissait en 1940, donc ils l'ont laissé tel quel en ligne. Mais si vous voulez voir des archives, disons, qui concernent les Mohawks, les Inuits, les Atikameks, il faut utiliser d'autres terminologies. Si, par exemple, on s'en va sur le site de BANQ, Bibliothèque Archives Nationales du Québec, on a il y a les différentes... quand vous entrez dans le site Internet, vous avez les catégories services, recherche, découverte, ainsi de suite. En bas, c'est-à-dire à droite, vous avez BANQ numérique. En cliquant là-dessus, vous allez avoir accès à toutes les cartes des lettres d'archives vraiment du temps de l'intendant et tout ça, des archives de journaux de 1721 jusqu'à nos années. Malheureusement, il n'y a pas le Journal de Montréal ou la Gazette, mais tous les autres journaux locaux du Québec sont tout là intégralement.
Pourquoi on n'a pas le Journal de Montréal et la Gazette?
Ben, parce qu'il faut s'inscrire à leurs archives. Fait que c'est un peu comme Ancestry, il faut que tu payes, puis là, tu as accès à leurs archives journalistiques. Fait que c'est comme sont payants. La presse, le Journal de Montréal, pas la presse, le Journal de Montréal et la Gazette, leurs archives sont payantes. Mais tous les autres ont été numérisés à BANQ, avec l'accord, évidemment, des éditeurs et des firmes, tout ça. Et puis, par exemple, si vous cherchez un truc sur des Inuits en 1970-1980, il ne faut pas utiliser la terminologie Inuit parce que personne n'utilisait ça dans le temps. Les gens disaient montagnais. Donc, souvent, vous cherchez les Mohawks, écrivez pas Kanawaki, écrivez Kocnawaga comme dans l'ancienne terminologie. Fait qu'il faut toujours utiliser les anciens termes selon les années où vous faites vos recherches. Ça va vraiment vous éliminer, donner, disons, des bons indices pour faire les bonnes recherches. Parce qu'évidemment, si vous écrivez Mastoyache, pointe bleue, vous allez avoir pas mal tout l'historique de la réserve depuis 1851 jusqu'à 1980 à peu près. Mais ça devient Mastoyache éventuellement. Donc, il faut ouvrir nos éventails de terminologie quand on fait des recherches. Puis c'est pas mal la même chose à Bibliothèque et Archives nationales du Canada. Dans leur site Internet, il y a une catégorie « Découvrir la collection » et une catégorie « Recherche dans la collection ». Et puis, dans « Recherche dans la collection », il y a « Généalogie, patrimoine militaire », les recensements, des recherches de documents de bibliothèque, d'ancêtres particuliers ou dans la collection. Moi, je suggère d'aller dans « Recherche dans la collection » parce que c'est vaste, ça englobe toutes les catégories. Et puis, vous inscrivez des terminologies comme, disons, montagnais, agent des Indiens, réserve indienne, toute l'autre part des vieilles terminologies à des nouvelles terminologies, parce qu'il y a des choses aussi assez récentes. Donc, on peut trouver des cartes, on peut trouver les plans, tous les plans d'arpentage, les mesures des réserves sont là. Évidemment, toutes sortes de détails, parce que oui, il y a les recensements sur Ancestry qui sont en ligne de 18-25 à 19-21, mais il y a des recensements spécifiques des agents des affaires indiennes d'époque qui faisaient un recensement annuel avec certains détails qui peuvent être extrêmement intéressants aussi. Et puis, une autre source qui travaille avec Librairie Archives, Bibliothèque et Archives Canada, c'est Canadiana. Vous inscrivez canadiana.com ou .ca. Et puis, il y a plusieurs microfilms en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Canada où vous écrivez aussi des terminologies comme agent des Indiens, le nom de votre communauté, le nom d'un chef aussi. Donc, inscrivez des noms de famille propres à vos communautés dans l'engin de recherche, tant les archives de journaux de BANQ que dans les archives diverses de Bibliothèques et Archives nationales du Canada. Et puis, vous allez trouver une foule de documents.
Est-ce que, Eric, quand on voit ces documents-là, on peut se les importer et se bâtir un dossier sur un sujet de recherche en particulier?
Ben oui, c'est ça exactement. Donc, c'est vraiment à votre guise, vraiment. Mais ce que je suggère, par exemple, c'est d'aller évidemment dans diverses bibliographies qui vont spécifier toute l'historique, parce que des fois, si on a, disons, un historique d'un arpenteur qui fait les mesures puis qui décrit un peu les arcs d'une réserve et tout ça, bien, on n'a pas le contexte intégral de qu'est-ce qui s'est passé à travers ces années-là. Donc, évidemment, je suggère un livre qui va parler de ces années-là ou des recherches plus approfondies. Il y a aussi Google Scholar, Google pour les académiciens. Si vous allez dans Google Scholar, S-C-H-O-L-O-L-A-R, comme Google écolier, mais en anglais. Ouais,
comme dans Scholar.
Dans Scholar, exactement. Donc, dans Google Scholar, il y a vraiment toutes les thèses, une foule de thèses puis de recherches de départements universitaires, de divers chercheurs professionnels qui ont mis leurs thèses là, qui sont disponibles là en ligne. Alors, c'est vraiment très, très riche. Évidemment, il faut s'informer sur une période de temps donnée, parce qu'on ne peut pas juste prendre des documents comme ça puis les auto-interpréter. Fait que c'est très important d'étudier tout le contexte qui va autour aussi.
Google Book peut aussi être utile. Moi, en faisant des recherches juridiques pour trouver des documents plus anciens, j'ai souvent trouvé des choses aussi sur Google Book.
Ah bon, oui, c'est vrai. Je n'ai pas souvent abordé ça sur Google Book. Oui, c'est intéressant. Donc, oui, c'est pas mal un bon amalgame. Il y a ça aussi, mais aussi, il faut considérer les juridictions qui touchent les renseignements personnels et tout ça, parce que il y a certaines choses où pour avoir accès à certaines informations, il faut faire une requête. Mais là, souvent, c'est peut-être un peu plus des choses qui touchent à des journalistes et tout ça.
En terminant, Éric, si tu conseillerais à nos auditeurs un endroit pour aller faire ces recherches-là, la première chose, pour commencer, c'est la Bibliothèque et Archives nationales du Québec?
Oui, parce qu'il y en a pas mal dans la plupart des grandes villes et grands villages du Québec. Là, il y en a à Sept-Îles, à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, ainsi de suite. Et puis, le personnel sont très courtois, puis ils ont une bonne formation aussi pour expliquer les ressources qu'ils ont sur le site directement. Il y a beaucoup de livres aussi. Les gens qui veulent faire leur généalogie ont pas mal tous les registres paroissiaux, les copies.
On te remercie beaucoup pour ta chronique.
Ben, ça me fait plaisir. Ben, bonne semaine à vous tous. Hein?
À Léonie.
Vous écoutez Koué, bonjour.
Hey, on reçoit en ce moment Jimmy Papati pour des nouvelles de Kitsakik. Jimmy, tu avais deux sujets dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Premièrement, tu voulais nous parler de la Journée nationale de vérité et réconciliation. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette journée-là?
Moi, le 30, cette journée-là, j'étais au Musée de la civilisation à Québec. Je participais avec Maïté Chaganache puis Mme Nikwe sur cette journée-là. Puis, c'était une émission qui a été enregistrée et diffusée sur le web. Là.
Okay.
Mais pour moi, cette journée-là, j'ai pris cette journée-là avec un regard plus vers les Autochtones et non pas vers le gouvernement ou bien les prêtres, parce que j'ai des raisons personnelles. Une des raisons, c'est quand je regarde le gouvernement depuis qu'ils ont fait le projet de réconciliation dans l'enquête vérité, là, tu sais, la commission, les travaux, les rapports, les recommandations. Quand je regarde ça, puis je regarde le comportement du gouvernement Trudeau avec ses ministres, je regarde qu'est-ce qu'ils font d'un bout à l'autre du pays. Il y a une affaire que le gouvernement ne fait pas, c'est qu'il ne change pas, lui. Il continue à faire la même mode d'opération. Il ne veut pas changer ses comportements. C'est extrêmement difficile pour les communautés autochtones à l'échelle du pays de faire confiance à un gouvernement qui a un langage de réconciliation, mais en même temps, il garde ses propres règles tout près. Ça, un exemple, la loi sur les Indiens n'est pas changée, modifiée. Je regarde toute la relation, la couronne avec les Premières Nations.
Vous n'avez pas d'eau encore courante, vous n'avez pas votre village.
Non, on n'a rien de tout ça encore, mais on est encore là, puis on voit tout ce qui se passe. Dans le cas des enfants du pensionnat, c'est pas été reconnu. Donc, pour que tu saches que cette journée-là, c'est nous, on se souvient seulement que 80% des
comment
gens...
Comment ça, Jimmy, ça n'a pas été reconnu, l'histoire des enfants?
Ben, c'est une règle de fonctionnaire. Que les autres, ils disent que le pavillon Notre-Dame de la route à Rico, qui a fermé en 91, ne rentre pas dans les critères des pensionnats, puis pourtant c'est une école où tous les enfants étaient rassemblés, puis en fait ils classifiaient comme une école de jour, donc ils n'étaient pas éligibles. C'est pas un pensionnat comme à Saint-Marc. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais voulu le reconnaître, mais quand tu regardes ça depuis la fermeture des pensionnats, tous nos enfants ont toujours été mis en pension chez des non-autochtones jusqu'à temps qu'il les regroupe au pavillon Notre-Dame-de-la-Route.
Oui, puis après ça même, il a fallu que vos enfants aillent à l'école à Val-d'Or. même s'ils ont fermé cette école-là, donc pendant ben des années, jusqu'à temps qu'on développe une école primaire dans la communauté de Kitsakik, il fallait que les enfants s'en allaient chaque lundi matin ou chaque dimanche soir à Val-d'Or, puis revenaient le vendredi soir.
C'est ça. On a eu quelques années comme ça de voyagement, puis la journée où on s'est doté d'une école, nos jeunes, ils vont tous ceux qui vont à l'école au niveau élémentaire, ils vont à l'école dans notre communauté maintenant. Puis les grands, les autres, ils voyagent en autobus de Kitsakik. Ceux qui sont au secondaire, ils voyagent à tous les jours.
OK. C'est rare que les normes édictées par des fonctionnaires soient toujours liées à la réalité. T'sais. Dans l'impression qu'un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui est capable de te dire si t'as un pied dans l'eau bouillante puis l'autre dans l'eau glacée, en moyenne, t'es supposé être confortable. T'sais. C'est aussi con que ça, souvent, leurs règles.
Ben, c'est des règles bureaucratiques là, de fonctionnaires qui sont aptes, selon leurs compétences, à évaluer si un tel rentre dans tel critère, mais c'est sûr que c'est des fonctionnaires qui doivent tout faire pour minimiser la responsabilité du gouvernement.
Est-ce que tu trouves pas ça un peu frustrant qu'on aille développer une journée vérité-réconciliation, bing-bang-bang, en un mois, on avait voté la loi qui faisait une nouvelle journée fériée suite aux découvertes des corps dans les terrains des pensionnats, quand on avait eu pendant des années un député autochtone, Robert Falcon Ouellet, qui militait pour cette journée-là, puis qu'on y riait en pleine face à l'époque du... Puis c'est un député libéral, puis on riait en pleine face à l'époque du gouvernement Trudeau majoritaire.
Ben, c'est sûr que cette journée-là, le gouvernement, pour montrer une bonne figure à l'échelle internationale, il fallait qu'il fasse quelque chose.
Mm-hmm.
Il fallait museler aussi des leaders autochtones. Parce que quand il a nommé la nouvelle gouverneure générale, puis Michel Audette au Sénat, c'est toutes des décisions du gouvernement pour, dans le fond, dans le cas de Michel Audette, c'était vu qu'on ne veut pas l'attendre fioler après nous autres, on était sur le point de le mettre de notre bord, puis de lui donner une occasion, un poste pour qu'il se la ferme, puis c'est ce qui est arrivé. On n'en entend plus parler maintenant. Elle a un job de sénatrice, puis elle va passer son temps à lire des projets de loi, puis elle va avoir tout simplement perdu, dans le fond, c'est son choix, puis il faut respecter son choix. Nous, de notre bord, c'est quand tu regardes ça, ils se sont empressés de reconnaître cette journée-là, mais ils se sont pas empressés de reconnaître la vérité, parce que la vérité, elle a toujours été dissimulée par les ordres religieux qui enterraient nos enfants dans leur pensionnat, puis qui cachaient ça, puis que le procureur général du Canada n'a pas ordonné une enquête à des fins criminelles là, au service de police. Là. Cette vérité-là, là, on va la dissimuler coûte que coûte, puis c'est ce qui fait que partout à l'échelle du pays, il n'y a plus personne qui croit à cette volonté-là du gouvernement de se réconcilier. Pourquoi nous autres, on irait se réconcilier avec le gouvernement quand nous, on n'a rien fait à ce gouvernement-là? C'est eux qui nous ont fait des choses.
Il faudrait parler de décolonisation avant, puis qu'on ait des gestes, parce que les intérêts des États coloniaux sont toujours là, les intérêts de la couronne provinciale d'aller extraire les ressources, puis de la couronne fédérale aussi.
Il faudrait que le gouvernement, puis surtout les prêtres, reconnaissent qu'ils ont volontairement détruit notre culture, puis ça, puis il faudrait au moins, au minimum, qu'ils mettent des fonds pour restaurer la langue, la culture, les pratiques cérémoniales. Il faudrait qu'ils soient rétablis dans nos communautés, dans nos nations. Il faudrait que l'Église catholique, l'Église, toute forme d'Église se retire des communautés, puis laisse les communautés se réapproprier leur spiritualité.
Mais Jimmy, je viens, comme blanc, moi je suis un blanc, je viens de m'apercevoir pour la première fois que le mot réconciliation, il s'applique pas du tout, parce que pour réconcilier deux choses, il faut qu'il y ait deux agresseurs, un agresseur de chaque côté. C'est pas le cas. Le seul agresseur qui a existé, il était du côté des Blancs au Canada avec le gouvernement, et non pas sur l'autre côté. Donc, tu avais parfaitement raison, il n'y a pas de réconciliation possible, mais la décolonisation, oui.
Puis c'est extrêmement difficile de faire confiance à un oppresseur qui garde ses pratiques coloniaux, puis c'est qui garde, qui n'a pas changé sa manière d'opérer avec les Premières Nations. Là.
Mm-hmm. Hey, Jimmy, qu'est-ce que tu penses des excuses des évêques du Canada, puis des montants qu'ils ont donnés aux communautés pour avec ces excuses-là? Penses-tu que ça avait l'air sincère, ça?
Ben, personnellement, j'y crois pas. C'est de la poudre aux yeux. Là. Les religieux, eux autres, c'est parce qu'ils ont senti la pression à l'échelle du pays se faire, puis 30 millions pour tout l'ensemble du pays, c'est une somme ridicule. Moi, je m'attendrais, pour les prendre au sérieux, il aurait pu mettre 1 milliard de dollars. Aller chercher 1 milliard chez Ocrem, là-bas au Vatican, puis mettre ça à la disposition des communautés pour qu'ils se rétablissent leur spiritualité puis leurs affaires, puis que l'Église, les représentants d'Église se tassent des communautés. Là, ça aurait été un peu plus sérieux.
Ouais.
C'est totalement ridicule.
Penses-tu que, je regardais des nouvelles qui venaient de France, on met en procès un gardien d'un camp de concentration nazi qui a 100 ans. Penses-tu qu'on devrait faire ça avec les vieux prêtres pédophiles, aller les chercher dans leur maison de retraite, les mettre devant un jury, puis les accuser aux criminels?
Bon, on devrait avoir un genre de tribunal comme à Nuremberg, où c'est des crimes, c'est des génocides, ça, là, qu'ils ont fait à des peuples, là, l'Église catholique, les vivants. Puis même les évêques aujourd'hui qui sont là, ils portent du sang dans leurs mains, du sang certain. Tout ce gain-là, ils devraient répondre dans un tribunal comme le tribunal de Nuremberg, en fait, pour les nazis, là. Ben, ils devraient avoir un tribunal international à quelque part où que le Canada, les prêtres, sont accusés pour génocide, puis qu'on prend les moyens légaux, un tribunal pénal, où que ces gens-là doivent répondre de leurs actions. Puis le Canada, il n'y a pas choix, il devrait être là aussi.
Mais c'est pas pour rien que le Vatican sent la soupe chaude, parce que ce qui s'est produit ici au Canada, ça s'est produit en Amérique du Sud, en Afrique, en Orient. En Afrique, c'était énorme ce qui s'est passé là dans le même sens. Alors, c'est mondial.
Oui, l'histoire nous apprend que le Vatican a financé des guerres partout pour détruire les spiritualités des peuples. Ça s'est fait en Amazonie, ça s'est fait en Amérique du Sud, ça s'est fait en Amérique du Nord. Nous, on appelle ça ici l'île de la Grande Tortue. Ça a été fait de même. Partout à l'échelle mondiale, le Vatican a créé des guerres pour pouvoir prendre le contrôle. Puis c'est pour ça que tu regardes dans certains pays, les musulmans se sont rebellés, puis on les traite comme des criminels alors qu'ils veulent juste garder leur façon de prier, qu'on n'est pas toujours d'accord. Tout le monde, il y a du monde en Occident, ici de notre bord, on trouve qu'on a une fausse compréhension de ce que le musulman fait. On pense autant que c'est barbare, puis qu'on associe leur pratique à la soumission de la femme, puis quand tu regardes ça, les visages voilés, toutes ces choses-là, c'est dans leur cérémonial à eux. Mais nous, on dit, on n'en veut pas ça dans notre pays, on veut rester chez vous. Puis en même temps, au Canada, les gens ils disent qu'il faudrait que les immigrés qui viennent dans notre monde, il faudrait qu'ils respectent nos us et coutumes. Puis eux autres même sont même pas foutus d'apprendre des langues et des cultures autochtones.
C'est pas pour rien qu'on a associé le sabre et le goupillon dans l'histoire.
Hein? C'est ça. Et pour moi, je respecte aujourd'hui quand même les convictions spirituelles, les convictions religieuses des gens qui sont dans le catholicisme, dans n'importe quel autre ordre. Je respecte.
C'est plus les institutions. C'est plus les institutions contre lesquelles tu as quelque chose.
Et les individus aussi. Hein?
C'est les institutions qui se servent aujourd'hui de fidèles autochtones pour prêcher au Canada le pardon, alors que les convaincus catholiques, les convaincus pentecôtistes, tout ce monde-là qui parle au nom de Jésus, viennent de nos communautés, puis osent nous dire de pardonner, alors que pour le gouvernement puis les prêtres, ça fait leur affaire. Parce que ça nous met en contradiction entre nous autres par rapport à nos pratiques spirituelles autochtones, puis la pratique de religion catholique ou anglicane, là, ça nous remet en question, puis ça nous, pendant qu'on se chicane dans les communautés à cause de ça, ben, le gouvernement et les prêtres, autres, ont le plus beau rôle, là. Ils ont réussi à créer une mini-guerre dans l'intérieur des communautés.
Jimmy Papati, y a-tu des matins où vous vous levez, puis vous êtes optimiste?
Ben, moi, je suis plutôt, je regarde le matin, puis je me dis que je suis chanceux d'être retourné chez moi. Tous les matins, j'ai une pensée pour tous les enfants qui ne sont jamais retournés d'un pan, puis qui sont restés en arrière d'un pensionnat. Chaque matin, je me lève et je me dis, puis quand j'entends que la petite voix leur dit « on vous a trouvé », je suis très optimiste maintenant, qu'ils ne sont pas oubliés, ces enfants-là, maintenant. Ils ont été mis au grand jour à la face du Canada, puis à la face des ordres religieux, puis que maintenant, il n'y a aucun doute possible. Il y a des preuves qui sont tangibles, que le Canada a commis
un génocide
avec la participation des prêtres, des organisations religieuses à l'échelle du pays.
Maintenant, il reste à avoir la justice dans tout ça, essayer qu'on puisse traduire ceux-là qui sont responsables.
On n'obtiendra pas la justice au pays, au Canada, avec les règles de colonisateurs. Puis c'est la même chose en province. Quand un premier ministre s'endette à ne pas reconnaître ces journées-là, puis en même temps...
Le racisme systémique.
Puis on regarde ce qui s'est passé avec Joyce. Tout le monde moi, j'avais dit que... Personnellement, mon point de vue, c'était une commission d'enquête. C'était pour nous faire croire à une erreur médicale pour s'assurer que les infirmières puis leurs complices qui sont responsables de la mort de Joyce ne soient jamais poursuivis aux criminels.
Hey, Jimmy, Jimmy Gouetch, c'est toujours super intéressant de parler avec toi.
Merci. Bonne journée.
Bonne journée. C'était le titre « Sailor » des artistes Canon et Mathieu. Mathieu, qu'on a la chance d'avoir avec nous en onde. Quoi, Mathieu?
Quoi, ça va bien?
Bonjour pour toi. Hey, je voudrais commencer par une question avec toi. Ça me brûle les lèvres. Un jour, tu as regardé un film qui s'appelle Sitting Bull, puis ça t'a mis le feu au cul.
Ouais. Ça part de là, mon histoire avec d'écrire des tunes.
Qu'est-ce que tu as pensé? T'étais pas très âgé à ce moment-là?
Je t'avouais que moi, j'ai appris à jouer de la guitare, j'avais 20 ans, 21 ans, puis ma première tune, ça date de 2014, ça veut dire ça fait un bout, mais pas tant que ça, je te dirais.
Tu veux dire que t'es pas aussi vieux qu'on pense, c'est ça que tu veux dire?
Tu me donnes quel âge?
Oh, moi, je vais te donner 17-18 ans pour une couple d'années encore.
Non, moi, j'ai 35 ans. J'ai déjà un peu de vécu en dessous de la crevette, comme on dit.
Tu fais de musique, Mathieu, qui s'appelle, que tu appelles toi-même folk bipolaire. Veux-tu bien me dire ce que ça veut dire?
Ben, c'est parce qu'aujourd'hui, au début, faut tout le temps s'étiqueter. Faut tout le temps que le monde sache avec quel genre de musique tu fais là, à cette heure. Fait que, puis je savais pas trop où me situer. Moi, je me considère, parce qu'à la base, mes tunes que j'écris, c'est un gratteux de guitare. Puis je vais pas me mettre dans la catégorie des paroliers, mais j'aime ça raconter des histoires. Puis après ça, bipolaire, c'est parce que des fois, il y en a qui sont festives, il y en a qui sont engagés, il y en a qui sont douces. Fait que, tu sais, c'est comme un mélange d'émotions. Je trouvais ça assez bipolaire, là, un peu. Fait que folk bipolaire, ça sonnait bien.
Est-ce qu'on peut voir deux pôles dans le fait que tu chantes en inou puis en français, puis même en anglais, on l'a entendu avec Sailor?
Ouais. Ben, c'est ça qu'on me dit. En tout cas, ceux qui me connaissent, ils me disent hey, c'est donc bien drôle. T'as un style quand tu chantes en français, t'as un autre en inou, c'est une autre façon d'amener les choses. Puis ben justement avec Sailor, on a essayé un autre patente. Fait que je pense que c'est ça aussi être bipolaire, hein? On sait pas ce qu'on est ni ce qu'on veut. Fait que ça vient naturellement.
Hein? Mathieu, est-ce que tu as eu à surmonter des difficultés, des embûches particulières pour faire son métier?
Non, parce que j'ai jamais... maintenant, ça l'est, là, mais j'ai jamais considéré ça comme mon métier. Quand j'ai commencé, moi, je travaillais encore dans la construction. Fait que même jusqu'à... avant le COVID, là, j'avais encore mon sac à clous. Fait que c'est plus le besoin d'extérioriser des émotions que je pouvais pas extérioriser.
Donc, quand tu dis bipolaire, ça veut aussi dire que d'un côté, t'as un marteau, de l'autre côté, une guitare, là.
Ben, c'est ça. C'est ça, ma vie. C'est tout up and down, puis d'un bord, puis de l'autre. Puis, mais en fait, il y a quand même une ligne directrice qui est... Ben en tout cas, c'est moi pareil, là, mais... c'est ça.
Tu chantes le territoire dans tes compositions?
Ouais, il y a une couple de tunes. Je suis pas grand connaisseur du territoire, mais j'aimerais y aller plus souvent. T'sais. Fait que moi, des histoires de grand espace, puis de... Tu sais,
ça t'inspire?
J'étais allé une couple de fois, puis je... Tu le sens, là, quand t'es dans le milieu d'un lac entouré de blizzards, puis tu vois plus où tu vas, là, tu sens que la nature, c'est puissant, là, fait que tu te sens petit, puis c'est un autre feeling dans le bois, là, tu sais.
Puis tu chantes aussi les réalités qu'on peut vivre aujourd'hui en tant qu'Autochtone dans le monde moderne. Moi, j'ai eu la chance de voir ton spectacle quand tu le donnais avec Bibitte, avec Joséphine Bacon.
Ouais.
Juste avant la pandémie, puis une tune qui m'avait bien marqué que tu avais chanté ce soir-là, c'était Le Mineur, où tu parlais justement de la contradiction entre le fait d'être un mineur puis d'être un autochtone.
Ouais, quand j'ai écrit ça, l'histoire du mineur, c'est un de mes, mon meilleur chum qui est venu me voir un moment donné, puis qui était tout fier de me raconter qu'il allait devenir dynamiteur. Là, moi, j'étais comme, arrête, ben, voyons donc, tu sais, ben, je l'ai pas. Ben, j'ai pas. Mais en même temps, moi, dans ma tête, là, l'image que j'avais, c'était un autochtone en habit traditionnel qui creuse un trou puis qui pose un bâton de dynamite, tu sais, comme dans un cartoon, là, un
ouais,
peu.
Ouais.
Fait que c'est juste le clash que ça m'a fait quand il m'a dit ça. Je suis comme, oh, OK. Mais tout le monde, il faut qu'il mette du pain sur la table.
Oui, oui, ouais, ben c'est sûr, mais ça résonnait en moi. Ben, j'ai souvent cette impression-là, comme de peut-être des fois en travaillant en droit, de trahir à quelque part mes origines. Puis c'est peut-être un sentiment que beaucoup d'Autochtones ont dans ce monde moderne-là.
Ben oui, hein, ben en fait, on le fait tout un peu, hein? On est même plus dans le bois, fait que tu sois dynamiteur ou chanteur.
C'est ce que tu appelles, Mathieu, un Indien 2.0, hein?
Ouais, on est comme c'est ça. On a comme changé d'air ou changé de chapitre, là. Puis là tout le monde court pour retrouver un peu ou pour pas perdre. Parce que là, on est en train de, surtout ici autour, là, on a une grosse bagarre, je te disais, pas une bagarre, là, mais on veut se réapproprier notre langue, on est en train de perdre, hein, d'aller à l'école en français puis de regarder la TV en français, mais c'est un peu, on est en danger un peu.
Tu as été nominé dernièrement comme dans la catégorie artiste autochtone de l'année à la disque. Est-ce que c'est un gros honneur pour toi?
Ben oui. Hey, je suis chanceux même. Je pense que c'est la troisième fois que j'ai été nominé. La première fois quand Florent a fait son super speech.
Mm-hmm, oui,
une fois pendant la pandémie, il me semble que j'étais chez nous en belle chemise. Puis là, ben, on va y aller prochainement. Là, on va y aller. Ben, moi, c'est toujours un honneur. Hein. Syndrome d'imposteur, c'est ça qu'on dit des fois.
Ben oui.
J'ai l'impression que je fais juste gratter de la guitare, puis je fais des tunes, mais ça résonne plus que moi je pense. mais c'est tout un honneur, hein, entouré des artistes qui sont là, mes amis.
As-tu beaucoup de contacts, Mathieu, avec des autres chanteurs, auteurs, compositeurs blancs?
Des contacts? Je les vois quand on fait des festivals, hein, je les ai retrouvés.
Mais vous fréquentez pas tellement?
Ben là, moi, j'habite à Malio, ils sont pas dans... Moi, c'est rare que je vais en ville. J'habite à Malio-Ténam. C'est moi qu'il faut qu'ils sortent d'ici pour aller peut-être à leur rencontre. Là, ben, quand on se croise, des fois, on partage des projets. Tu sais, on a fait un projet cet été à Petite-Vallée avec... Il y avait Louis-Jean, il y avait Vincent Vallière, il y avait Laurent Nicoué... Il y a Bouchard. J'en connais, puis je me suis fait des amis en plus. T'sais. Mais de là à aller prendre un café, je suis pas sûr. Là.
Dans les prochains temps, maintenant que les mesures sanitaires deviennent moins sévères, est-ce que tu as des spectacles de prévus?
Prochainement, je m'en vais avec mon ami Scott Pienne. On s'en va vers Coensville.
En Estrie?
23. Ouais, ouais. Puis après ça, mois de novembre, je suis pas mal occupé avec mes amis de Nikamu Mamuitun. Je sais pas si tu les connais.
Ouais, mais ben c'est la maison de disques.
Non, c'est les chansons rassembleuses. Là,
OK.
C'est un projet qui mélange quatre autochtones puis quatre allochtones. C'est un projet qui mélange des Blancs puis des Indiens.
On va bon.
Puis on fait de la musique, on a écrit, puis on a composé de la musique ensemble. Ça fait depuis 2017 qu'on fait ça. 2017.
Mathieu, on va dire un gros merci pour avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Tchekastemeten. Donc, on peut trouver tes chansons puis sur le site de nikamowin.com.
Ouais.
Donc, on invite tout le monde à aller écouter qu'est-ce que Mathieu fait.
Super bon.
Donc, aujourd'hui, c'était une émission avec Alexis Wawanalwat et Robert Blondin au micro.
Jean-Sébastien La Liberté en régie, Claire Guérin à la recherche.
Et
Louis Garon, notre boss,
le boss à la coordination. À la semaine prochaine.